Bonsoir Aude Lavigne, on vous retrouve demain à 20h55. Bonsoir à toutes et à tous. La dispute. Ce soir, le cinéma. Ce soir, Corinne Rondeau et Noémie Luciani se font face à notre affiche. Peace to us in our dreams de Sharounas Bartas. Peur de rien de Daniel Arbide. Nous évoquerons aussi plus rapidement Les Innocentes d'Anne Fontaine et La Terre et l'Ombre de César Acevedo. Vers 21h20, Antoine Guillot nous livrera la revue de presse culturelle quotidienne de La Dispute. Encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de La Dispute ce soir. Des invitations alors pour voir au cinéma l'exposition Goya, vision de chair et d'os. J'avoue, je ne sais pas bien comment ça se passe, mais il s'agit d'une présentation d'un film né de l'exposition de la National Gallery. Enfin, nous avons rendez-vous avec le cinéaste et comédien Sharounas Bartas, qui est toute cette semaine l'invité de La Dispute. Depuis l'an 2000, le cinéaste lituanien Sharounas Bartas propose un nouveau film avec régularité tous les 5 ans. Freedom, présenté à la Mostra de Venise en 2000, Seven Invisible Men, présenté à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2005, Indigène d'Eurasie, présenté à la Berlinale en 2010, Peace to Us in Our Dreams a lui été présenté à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2015, donc, entre les deux derniers films, un événement majeur dans la vie du cinéaste, le suicide de sa muse, la muse de ses premiers films et mère de sa fille, Katerina Golubeva. Dès les premières minutes du film, Sharounas Bartas, qui se met lui-même en scène et sa propre fille, regarde quelques images de home movie avec Katerina Golubeva. L'absente est donc bien présente, elle le sera aussi dans les propos des protagonistes au cours de ces quelques jours où cette fille, ce père et la nouvelle compagne de celui-ci vont passer quelques jours dans une maison à la campagne.
C'è l'orchestra sprada da scambiare. C'è девушка грожа, молодец.
Apylinkės inspektorius. Pas vieną iš medžiotojų dingo graižtvinis šautuvas su optiniu taikikliu. Gal kažką girdėjot?
Nežinau, kaip nieko negirdėjau.
Kodėl tu čia?
Čia geriau.
Matai, kiekvienas negeras, jisai kažkam yra geras. Kai žmogus galvoja, kad kitas jau aplinkį blogų, jis tada galvoja, kad jam reikia gintis. Tuo pačiu blogu.
Šviesios valandėlės, tai kaip peteliškas pernelį. Su jais reikia elgtis atsargiai.
voulait garder cette musique un peu parce que Corinne Rondeau l'adore. Moi aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Mais on ne sait pas qui c'est. Il faut qu'on retourne voir ce film et bien regarder le générique fin pour entendre toutes les musiques où on ne tue pas forcément des violonistes, hein, parce que la bande-annonce pourrait laisser croire au moins que quand on commence à dérailler sur son violon, un coup de feu peut partir. Bon, ça, ce sont les charmes de la bande-annonce, mais on va parler du film. Alors, la musique originale est d'Alexander Zeck. Z-E-2-K-E, me dit Antoine Guillot. Est-ce que ce morceau est de lui ? Sans doute, oui. Parce qu'il y a beaucoup de musiques qui ne sont pas de cet Alexander Zeck. Bon, on parle du film, Noémie Luciani.
Avec plaisir. Pour moi, c'était la première fois que je voyais un film de Sharounas Bartas, donc ça a été une expérience. D'abord parce que visuellement, c'est vraiment un film tableau dans lequel on s'immerge. Alors, ou pas. Moi, je me suis d'abord immergée, puis j'en suis sortie. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a plusieurs parties dans ce film. La première partie est très silencieuse. Il y a à peine quelques mots et, qui sont prononcés de manière très banale. Ce sont trois personnes, donc un père, sa fille et la nouvelle compagne du père, qui viennent à la campagne. Ils ont tous l'air fatigués pour différentes raisons. On a l'impression qu'ils viennent chercher la solitude. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils viennent pas vraiment chercher la solitude, ils viennent regarder. Il y a des jeux d'espionnage, notamment avec la famille des voisins. Et ils veulent aussi être regardés. Et donc, on a quelque chose à la fois de très voyeur, en même temps des tentations d'exhibitionnisme, avec une scène de bain très sensuelle dans le lac. Et donc, il y a quelque chose de très, très fort que je trouve qui se raconte dans ce jeu de regard quasiment sans parole, avec cet œil qui est à la fois un œil méfiant, qui peut être aussi un œil désirant, ça change sans cesse. Et la manière dont on regarde change sans cesse également. Donc, il y a un jeu de cadre qui est très travaillé, très intéressant. Quand est-ce qu'on regarde directement ? Quand est-ce qu'on regarde à travers un filtre ou dans le cadre d'une fenêtre, par exemple ? Quand est-ce qu'on espionne ? Quand est-ce qu'on est vu en train de regarder ? Tout ça est très beau et ça dit finalement quelque chose, je trouve, d'assez fort, de cette envie de solitude qui n'est pas vraiment une envie de solitude. Et dans un deuxième temps, on va libérer la parole. Et là, c'est là que je suis sortie du film. C'est-à-dire qu'au début, je trouve qu'il y a quelque chose de très touchant parce que cette parole se libère de manière difficile, maladroite. On sent que ce sont des gens qui se sont un peu repliés dans leur solitude et pour qui les mots sortent très difficilement. Mais je trouve que le film, au bout d'un moment, s'essouffle à vouloir justement trouver dans les mots la substance de ce qu'il essaye d'être. Il le trouvait très bien dans l'image, mais quand on passe aux mots, et en même temps, c'est son sujet, il s'essouffle et il perd son rythme. Il a tendance aussi, me semble-t-il, à se redire dans sa façon de tenir un discours, sur le langage, etc.
Très bien, pour ce premier regard, je reviendrai vers vous, mais on va écouter d'abord Corinne Rondeau sur ce nouveau film de Sharounas Bartas qui sort demain.
Oui, je peux entendre ce que dit Noémie, mais en même temps, comme je l'ai vu deux fois, j'ai fait à peu près la même expérience, sauf que je n'ai pas du tout le même rapport à ce que vous dites à travers la notion de regard. Mais la deuxième fois, il m'a semblé que le film était particulièrement limpide. Et en même temps, compliqué de dire cette limpidité-là. Parce que c'est un film qui, effectivement, se déroule sur une linéarité. Hein, la narration est très claire, vous l'avez annoncé, campagne. Voilà, un groupe de fermiers dans une grande pauvreté. Sharounas Bartas dans son propre rôle, on pourra dire, avec sa propre fille, etc. Bon, quelque chose qui se passe dans un territoire, effectivement, qui est loin de toute urbanité. Et donc, c'est effectivement le rapport des individus et des êtres entre eux à travers leur propre histoire, sur un territoire, dans leur langue, et avec cette espèce de rapport très, très étrange. Il y a quand même tout le long du film quelque chose qui serait comme un poison qu'on inoculerait lentement dans les êtres et qui justement se joue à travers la question du langage. Il n'est pas faux de dire que lorsque la parole se libère, on aurait envie de dire « Sharounas Bartas, dommage ». Que cette parole vienne là. Et en même temps, elle est tout à fait compréhensible à la deuxième, la deuxième vision, au visionnage du film, à savoir qu'en fait, j'avais raté le premier dialogue entre une vieille femme et cette violoniste qui est la compagne, qui semblerait être la compagne de Sharounas Bartas.
Et en fait. Son personnage.
Son personnage, en tout cas, oui. Et en fait, il y a quelque chose qui se joue toujours à l'intérieur du langage. C'est un film sur le langage, malgré ses grandes fresques et ses grands moments où il y a une discontinuité. Par exemple, le morceau de musique qu'on a entendu, c'est sa fille qui court en travelling dans la forêt. C'est absolument prodigieux. Il n'y a rien à récupérer sur une sorte de continuité narrative. Mais par contre, chaque fois qu'il y a du dialogue, il y a toujours quelque chose de « ça ne se comprend pas ». C'est « je m'entends, mais je ne vous entends pas ». Dis-moi, parle-moi parce que tu ne parles pas. Réponse, que veux-tu que je te dise ? Lorsqu'effectivement, on pose la question, la fille parle à un camarade, un jeune copain, la question c'est, est-ce que tu as quelqu'un à qui te confier ? Et toute la question est autour de la confiance et de se dérouler, en fait, à qui peut-on parler, de quoi peut-on parler ? Et en fait, cette espèce de... Le film tient sur parler, entendre, comprendre. Et là où ça va s'ouvrir, là où Shahounaz Barthas va ouvrir quelque chose du langage, il le fait avec sa fille. C'est d'ailleurs le seul être qui est dans un cadrage, parce que c'est un cinéaste du visage, quoi, il n'y a pas que du paysage, c'est la seule qui est dans la lumière. Les autres sont travaillés par une division. Hein. C'est de l'ordre du... Ce film est sépulcral. Je veux dire, il y a quelque chose de la fin, d'ailleurs, qui est déjà introduite dans les deux séquences du film. Hein. Je veux dire, on ouvre le film sur la forêt, un garçon, des rennes, deux coups de feu, cut, séance de concert, sublime plan symétrique, magnifique. Et là, on se dit... Et ensuite, la violoniste qui va... Ben voilà, le violon va partir et elle va se mettre à tourner sur elle-même et on se dit, bon ben voilà, il y a quelque chose des êtres qui leur échappe. Ce film est d'une étrangeté folle parce que là, quelque chose nous est toujours dérobé. Et Shahounaz Barthas, je crois, le sait, ce qui se dérobe, c'est ce qui est le propre des hommes, c'est-à-dire le langage. À quel moment on se rencontre ? Est-il possible de coexister ?
Alors, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Alors, j'ai peut-être eu de la chance que j'ai vécu la première fois ce que vous racontez, avoir vécu la deuxième, parce que alors, moi, j'ai pleinement été emporté, intéressé, passionné, subjugué par ce film, par sa beauté formelle, ça on l'a évoqué, mais pas seulement son rapport au temps et puis à son propos, parce que alors il y a quelque chose de très tchékovien aussi dans ce film-là, dans ces personnages, dans leur villégiature, en déshérence, qui sont quand même dans un monde où les classes sociales sont très présentes, puisqu'il y a ce rapport effectivement avec les voisins, on va dire les métayers, enfin ceux qui s'occupent des terres, des lacs, on imagine quand ils ne sont pas là. Il y a un questionnement voilà, sur la nature du temps, sur ce qui est passé, ce qui est aussi passé évidemment, on le voit avec ces images qui viennent juste après la séquence de la forêt et la violoniste, c'est les images de la disparue, de la mère, de la femme qui n'est plus là. Donc il y a quand même quelque chose sur ce qui n'est plus et qu'est-ce qu'on peut mettre comme mot dessus aussi sur cette absence-là. On y viendra peut-être plus tard dans le film. Il y a aussi un autre personnage qui interviendra, une femme qui surgira pour un autre moment, quelqu'un qui vient chercher des réponses, mais qui a surtout des questions à poser. Donc ça, c'est effectivement ce que vous dites, Corinne. Elle pose des questions, elle aura une réponse d'une certaine façon, mais c'est évidemment pas celle qu'elle est venue chercher. Enfin bon, il y a tout ce rapport-là, mais c'est vrai que la bascule du film, je crois que c'est au moment où la jeune violoniste va chez la paysanne et qu'effectivement il y a un début de communication. Hein. Finalement, ça va pas durer et ça va finir de manière très très violente. Hein, finalement, sur l'impossibilité de partager quelque chose alors qu'il ressort du domaine de l'art en l'occurrence. Mais et puis après, il y aura tous ces dialogues avec des binômes différents. Hein, ça va se jouer entre différents personnages et enfin moi j'étais très sensible vraiment à ce qui se dit dans ces moments-là. Enfin dialogue. Il y a quelqu'un qui parle à quelqu'un d'autre, ou il y a quelqu'un qui écoute, c'est ce que vous disiez, Corinne Rondeau. Il ne s'agit peut-être pas forcément de dialogue, mais de choses qui sont énoncées. Moi, j'aimerais bien que soit publié le scénario de ce film pour pouvoir lire ce qui s'y dit. Mais en tout cas, alors pour avoir vu nombre d'autres films de Shahounaz Barthas, c'est vrai qu'il m'a semblé qu'il opérait là ce qu'a opéré un autre ancien grand taiseux, c'est-à-dire Nuri Bilge Ceylan, qui tout d'un coup, avec Winter Sleep, on dirait qu'il a ouvert la vanne des dialogues, que tout d'un coup, ce sont des cinéastes qui quasiment viennent du cinéma muet, parce que c'était quand même un cinéma de silence, celui de Shahounaz Barthas, et que tout d'un coup, voilà, ils essayent ils entrent dans le parlant, d'une certaine façon, avec ce film-là. Moi, j'ai été extrêmement sensible à toutes ces dimensions. Enfin, elles sont nombreuses, donc je les donne ici de façon un peu un peu en vrac parce que le temps file. Mais tiens, comme je voyais Antoine Guillot opiner à chacun des propos de Corinne Rondeau, je le fais rentrer tout de suite dans le jeu avant de revenir vers Noémie Luciani.
Oui, je partage complètement l'analyse de Corinne Rondeau. Le tout, ce n'est pas de réussir à parler, c'est de réussir à trouver quelqu'un à qui parler et qui puisse vous entendre. Vous parliez d'un changement dans son cinéma. C'est aussi le cas pour le découpage du film. Jaunas Bartas, c'était un des grands cinéastes du plan séquence. Et ici, c'est vrai que tentant d'amorcer ce dialogue, il y a du chant contre chant, il y a un montage beaucoup plus nerveux, si on peut dire,
pour lui,
dans
oui.
le cinéma de Bartas. Moi, j'ai été très frappé aussi par toute une dimension souterrainement musicale de ce film qui se joue par un réseau de résonances, de correspondances entre deux tartines de beurre, entre des papillons, entre des éléments comme ça qui ressurgissent. Et puis aussi par le travail sur le son que je trouve exceptionnel de sa sensualité. Encore une fois, la tartine de beurre, le son du beurre qu'on étale sur le pain, moi, c'est quelque chose qui me transporte complètement. Et cette façon aussi d'utiliser la musique dans son allusion, sa présence-absence. On entend quelques notes, par exemple, d'introduction du concerto pour piano de Mozart, et puis ça s'arrête. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin parce que vous l'avez dans la tête et il continue à habiter la séquence suivante, comme la présence de Katerina Golubeva habite le film tout le temps, avec comme ça une photo qui va ressurgir à un moment et avec effectivement ce sentiment de perte, de tristesse qui habite le film en permanence. Voilà. Je trouve ce film très très beau.
Corinne ?
Oui, c'est tout. Bon, enfin, pour moi, c'est vraiment un film. C'est un miroir brisé de Jaunas Bartas. Dans la mesure où, encore une fois, ce dialogue, le premier entre les deux femmes, elle lui dit :« Vous ressemblez à ma grand-mère, mais vous ne lui ressemblez pas. » Et tout le film est là. C'est-à-dire qu'en fait, la fille vaut pour la jeune femme, vaut pour la vieille femme. Et même les hommes entre eux, ça peut être des générations qui ne sont pas elles-mêmes au sein d'une même famille. Donc c'est comment on reconstitue quelque chose de la parole à travers les prismes que représentent chacun des individus, parce que ce que vous renvoie l'autre, ce n'est jamais que la propre réponse que vous cherchez en vous-même. Et d'ailleurs, Jaunas Bartas dit dans le film, les questions n'apparaissent que lorsque les autres ont disparu. Donc effectivement, c'est l'endroit juste. Le film, son endroit juste, c'est l'absence absolue de l'autre. Mmh. Et donc, c'est la violence qui surgit, le point de butée qui est à quel moment l'autre vient à moi. Évidemment, il y a une manière de le raconter, d'en faire histoire, puisque tout le film, quand même, il y a des moments où moi, j'ai bondi sur le fauteuil. C'est-à-dire que je sais que ce film est plein de lenteur parce qu'il va y avoir une éruption. Ça va surgir. Parce que quelque chose du langage, quand il ne peut plus être symbolisé, c'est un point de réel. Et le point de réel, eh ben, ça va au sépulcre. Mmh. Voilà. Et donc, pour moi, c'est vraiment ce film est comme une forme de comme si Jaunas Bartas témoignait de son propre état d'esprit à travers une myriade de personnages qui ne sont qu'une part de lui-même. Mmh. Et ça passe de l'intime jusqu'à l'extrémité du lituanien, on va dire, jusqu'à sa fille. Mmh. Donc il y a une espèce de panorama comme ça, dans laquelle d'ailleurs il y a ce jeu de bascule de la parole, puisque au moment où sa compagne lui dit « parle-moi », il n'y répondra pas, mais lorsque sa fille lui dit « je ne comprends pas », il lui dit « parle-moi ». Mmh. Donc en fait, tout le film opère sur des rotations comme une même facette. C'est pour ça que je trouve que, pour moi, la formule la plus simple pour comprendre ce film, c'est un miroir brisé de Jaunas Bartas.
Noémie Luciani, peut-être pour conclure.
Je crois que vous m'avez convaincu tous les trois de faire un second visionnage de ce film. Mais je pense qu'en fait, ce que j'ai trouvé difficile, c'est précisément le point où le film veut en venir. C'est-à-dire qu'il parle de vraiment cette espèce de trop-plein, mais dans un sens... dans un sens bienfaisant d'image, c'est-à-dire que c'est cette beauté, on n'a pas envie de mettre des mots dessus. Mmh. Et donc quand il se met à mettre des mots dessus, des mots qui sont appelés, parce qu'on sent quand même la souffrance, l'étrangeté, mais vraiment il y a ça aussi, il y a une véritable souffrance de ces personnages qui se traduit après dans ce besoin de parler, d'être écouté, etc. Ce qu'on sent se construire quand même, c'est un constat d'échec, c'est-à-dire que ce langage qui était tellement important, ces mots qu'on sentait appelés, n'arrivent pas à dire les émotions, et ça c'est quelque chose aussi qui se redit beaucoup dans le film, et moi je pense que c'est cette redite que j'ai trouvé difficile à accepter, mais qui en même temps est la matière même du film, c'est-à-dire que quelque part ce qu'il y a de tragique, c'est qu'on a beau répéter autant de fois que possible « écoute-moi, entends-moi, je te parle », C'est pas pour autant qu'on va réussir à se faire entendre. Et ça, c'est quelque chose...
Malentendu.
Exactement, et c'est quelque chose qui est, ma foi, d'une grande tristesse.
Bon, ouais, une grande tristesse.
Mais on n'y échappe pas nous-mêmes. Sauf que nous ne faisons pas de cinéma.
Non, parce que ce qui est réussi, c'est que le film, lui, il nous parle.
Oui,
il m'a parlé. Dès la première, mais je vais y retourner pour qu'il me parle encore plus.
Oui.
Mais moi, il m'a parlé, mais très, très directement. Donc voilà, qu'est-ce qu'on demande quand même aux œuvres, qu'elles puissent nous parler, nous bouger, nous modifier. En tout cas, moi, c'est ce que m'a produit Peace to Us in Our Dreams de Sharounaz Bartas, qui sort demain. Et je signale aussi que il y a une exposition de photographies de Sharounaz Bartas en ce moment à la Galerie Passage de Retz jusqu'au 27 février. L'exposition s'appelle Few of Them. Et rétrospective, bien sûr, des films de Bartas. Donc on va envoyer Noémie Loujani faire des séances de rattrapage au Centre Pompidou à Paris. C'est jusqu'au 6 mars.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et avant de parler du nouveau film de Daniel Herbit, Peur de rien, nous retrouverons l'invité de la dispute qui se trouve être justement Sharounaz Bartas. On évoquera aussi La Terre et l'Ombre de César Acevedo et Les Innocentes d'Anne Fontaine. Peu de nouvelles innocentes dans la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute par Antoine Guillot. C'est à vous, cher Antoine.
Merci, Arnaud Laporte. On pourrait penser que lorsqu'un film obtient son visa d'exploitation, c'est pour la vie. On voit bien là que c'est une erreur. C'est ainsi que Jean-Luc Douin, ancien journaliste et auteur du dictionnaire de la censure au cinéma, commente dans Le Parisien la décision de justice tombée le 3 février qui retire son visa d'exploitation à Antichrist, film de Lars von Trier sorti en 2009. Pour l'association Promouvoir, proche des catholiques traditionalistes et dont on a déjà beaucoup trop parlé ici. C'est une nouvelle victoire. La Cour administrative d'appel de Paris a estimé qu'Antichrist, l'histoire d'une femme enfermée dans un délire mystico-sexuel, comporte, je cite, un degré de représentation de la violence et de la sexualité exigeant une interdiction de ce film à tous les mineurs. Le même jour, le ministère de la Culture indiquait que Fleur Pellerin allait analyser cette décision. En attendant l'obtention d'un nouveau visa, le film voit sa diffusion interdite sur tout support, salle, télé, DVD, exactement ce que souhaite Promouvoir, qui multiplie actuellement ce type d'action. Le 3 février encore, l'association a annoncé qu'elle allait tenter de faire modifier le visa d'exploitation de Bang Gang, sorti le 13 janvier, qui montre plusieurs scènes de sexe entre adolescents et qui a déjà écopé d'une interdiction au moins de 12 ans. Pour Jean-Luc Douin, les associations comme Promouvoir connaissent un regain de vitalité depuis les actions spectaculaires de la Manif pour tous. Sans doute sentent-elles que leurs actions ont plus d'écho. S'attaquer au film, c'est aussi une manière de faire parler d'eux. Eva Husson, la réalisatrice de Bang Gang, en est également persuadée. Tenter de faire interdire l'exploitation d'un film comme Bang Gang, cela en dit long sur notre société. Des associations comme Promouvoir ont plus d'écoute depuis quelques années et ce type d'action reste assimilable à de la propagande. Trois jours plus tard, on lit dans le journal du dimanche que Promouvoir a annoncé, samedi, avoir fait un recours contre le visa d'exploitation des 8 salopards de Quentin Tarantino, estimant que l'interdiction aux moins de 12 ans n'était pas appropriée en raison de scènes de très grande violence. L'association, rapporte une dépêche de l'AFP citée par le site de Libération, estime que ce long métrage, dont le visa d'exploitation a été accordé le 6 janvier, comporte plusieurs scènes inadmissibles, notamment une très longue séquence racontant image à l'appui, une fellation imposée au fils d'un général sudiste fait prisonnier pour obtenir une couverture après avoir été contraint de marcher nu dans la neige et le froid des heures durant. Naturellement, la couverture n'est pas donnée et le prisonnier est assassiné d'une balle une fois son travail terminé, ajoute l'association, qualifiant d'autres scènes de pure violence extrême, complaisante et gratuite, citant entre autres l'exemple d'une tête éclatée avec cervelle explosant sur le visage de la sœur du personnage assassiné. Bref, un film gravement choquant pour les jeunes adolescents, dont toute la seconde partie est fondée sur cette violence. 1h30 tout de même, conclut l'association. Et puis voilà qu'encore une autre ignominie est dénoncée par les protecteurs de nos vertus. Après les scènes de sexe non simulées et les meurtres à la tronçonneuse, la pause cigarette, l'Organisation mondiale de la santé vient de préconiser l'interdiction au moins de 18 ans des films dans lesquels des acteurs fument fume à l'écran, rapporte Claire Baumler dans le Figaro. Le rapport « Les films sans tabac, de la preuve à l'action » montre que les fumeurs ont davantage envie d'une cigarette après avoir vu des acteurs fumer. Selon l'OMS, la moitié des films de Hollywood, dont un tiers de ceux dirigés vers la jeunesse, comportent des scènes de tabagisme. On ne sait pas si les États-Unis et encore moins la France pourraient rebondir sur cette proposition jusqu'au boutiste. Celle-ci montre, quoi qu'il en soit, que la tentation de contrôler des images n'est pas indépendante de la volonté de contrôle des esprits. Bien que la liberté de création soit totale en France, la volonté de censure des films pour de bonnes ou de mauvaises raisons n'a pas disparu. Ceci dit, les notions morales ou de violence évoluant avec le temps, on assiste à des revirements. La Grande Bouffe de Marco Ferreri, interdit à sa sortie aux moins de 18 ans, passe aujourd'hui sur les grandes chaînes de télévision. À l'inverse, la commission a finalement estimé qu'Il était une fois en Amérique de Sergio Leone devait être interdit aux moins de 12 ans à cause d'une scène de viol acceptable, semble-t-il, en 1984, condamnable en 2015. La commission de classification des films et le ministère doivent néanmoins composer avec les lobbies en tout genre, y compris les distributeurs. Une décision peut toujours être contestée. Autrefois, la gauche était en première ligne pour dénoncer à tout va la censure. Désormais, les lignes de fracture sont plus confuses. Les défenseurs de l'ordre moral ne sont pas toujours ce qu'on croit. Il y a tout de même moyen de s'amuser avec tout ça, comme on l'a lu dans Télérama et sur lesinrock.com. Charlie Lyne, blogueur et réalisateur anglais de 24 ans, ne décolère pas contre le British Board of Film Classification qui délivre les visas d'exploitation des films et fait payer chacun de ses visionnages 101,5 livres de droits d'entrée plus 7,09 livres par minute. En signe de protestation, il a demandé aux internautes de l'aider à financer un très long métrage sans intérêt que les censeurs seraient obligés de regarder. Les membres de la BFCC sont obligés de rester devant les films qu'on les paye à regarder, a expliqué Charlie Lyne sur Kickstarter. Résultat, ils ont dû visionner Paint Drying, un plan fixe de peinture fraîche en train de sécher sur un mur qui dure 10 heures et 7 minutes. Le film a été classé tout public dans la catégorie documentaire. On attend sa sortie en France avec une impatience non dissimulée.
On essaye de cacher notre impatience quand même, hein, évidemment, on fera une dispute spéciale, je pense. Mais est-ce que c'est pas un peu dangereux quand même de regarder de la peinture qui sèche quand même? C'est un peu inquiétant, non? Et si on supprimait tous les films où on boit de l'alcool aussi, tant qu'à y être, non, l'OMS, je ne comprends pas ce laxisme envers l'alcool. Mais non, blague à part, alors c'est pas ça qui va arranger la cinéphilie, hein, parce qu'il y en a tous les films où ça fume. Tout le cinéma noir américain.
M. Le Maudit, Docteur Mabuse, M. Le Maudit, oui, on est vraiment mal.
Hein. Oui, on est mal.
Vraiment mal. Hein.
Oui, enfin, pour tout le cinéma, jusqu'aux années. Ouf. Je sais pas, 2000, non?
Plus de Bogart, plus de James Dean.
Plus jamais Lorraine Bacall à l'écran.
Plus jamais, non, parce que si on veut demander du feu, il suffit juste de siffler. Mais enfin là, je sais pas. Alors, ce qui est très curieux, c'est pour me voir, je me demande comment ils choisissent les films qu'ils regardent, parce que, je sais pas, il y en a plein, non, qui pourraient être attaqués par ce...
Surtout, il faudrait qu'ils regardent déjà ce qu'il y a à la télé, pour dire que c'est... Parce qu'en plus, si en plus, ils inventent des histoires...
On peut parler des experts, de Bones, de NCIS...
Ils inventent une scène des huit salopards qui n'y est pas, quand même, je veux dire.
Elle y est, mais...
Non, mais d'accord, mais elle n'y est pas comme elle est dite, c'est pas vrai. C'est comme l'histoire qu'il y avait eu au CAPC il y a des années, où il y avait un qui avait témoigné en disant, bah ouais, on s'enfile un concombre, bah non, il n'y en avait pas, le mec avait déliré.
Mais il l'avait certainement pas vu, l'expo.
À un moment donné, on éteint l'imaginaire, et en même temps, il y a des fantasmes de la part de ces gens-là, quand même. Qui est délire. Là, pour le coup, on est dans le délire.
Ouais, il faudrait peut-être interdire TF1 plutôt, parce que la violence déversée sur les chaînes de télé, c'est quand même autre chose.
Oui. Non, mais ça, c'est la forme la plus hypocrite. De toute façon, le vrai scandale aujourd'hui, c'est la censure qui nous tombe, qui dégringole en permanence. Il faut arrêter. Moi, ça commence à me. Chauffer, hein.
Oui, ça vous chauffe, Noémie Luciani.
Oui, puis ce que je trouve très dommage là-dedans, c'est tout un. Ça a l'air d'être construit autour d'un gros nœud d'amalgame divers et variés. Avec en fait des questions qui sont très différentes. Pour moi, la question de la grande violence du Tarantino, c'est quelque chose de très différent que par exemple de parler de Bang Gang. Je veux bien concevoir qu'il y ait un temps pour tout et qu'il y ait un temps pour Tarantino aussi. Un film comme Bang Gang, je pense que là où il est vraiment intéressant, c'est d'aller le voir et d'en parler avec des jeunes qui ont l'âge
entre
des adolescents.
Et 18.
Voilà, dont il est question dans le film. C'est pas du tout un film dont on va tirer la substantifique moelle en le regardant à 45 ans et tout seul chez soi. C'est un film à partager justement avec des jeunes. Donc c'est enlever ce film à son public. Et je trouve ça vraiment consternant.
Mais il faudrait aussi que ces gens-là, qui sont quand même intégristes, regardent le monde tel qu'il est. Parce que aussi, là, ça commence à suffire. Parce qu'on nous dit, les intégristes, ouais, ils sont là où on dépasse la ligne, il faut quand même nous puissions la remettre. Il faut arrêter. Ou alors il faut créer une association contre ce type d'association, parce que c'est infernal, quoi. Il y a un arrêt, il y a une interdiction, mais il n'y a jamais le dialogue. Parce que s'il y a alors du cul et etc., etc., de la violence, alors les trucs sont interdits. Je veux dire, heureusement que quand même on a appartenu à une autre génération qui nous a montré ce que pouvait faire le cinéma dans des époques où la violence est le, je dirais, est le terreau aussi du cinéma. Je veux dire, s'il faut tout le temps contourner et faire des films de 10 heures sur une peinture qui est en train de sécher, je veux dire, bah écoutez... Faisons-le alors.
Faisons-le.
Mais quel ennui.
Ça va être dur, ça va être long cette émission. On va regarder dessécher nos micros peut-être pendant la durée de l'émission. Enfin, ça fait que 58 minutes 30, faut bien le dire. Bon, si on parlait d'autres films qui sortent ou qui sont sortis, qui sortent, c'est le cas des Innocentes d'Anne Fontaine, Noémie Luciani.
Oui, alors je suis ravie de vous parler de ce film parce que c'est vraiment un film... qui m'a bouleversée, j'en ai des frissons rien que d'en reparler. De quoi ça parle ? Ça raconte, ça s'inspire très étroitement de l'expérience de Madeleine Poliak, qui était une jeune médecin de la Croix-Rouge envoyée en Pologne en 1945, et qui s'est retrouvée donc, en contact avec des religieuses qui étaient recluses dans leur couvent et qui avaient été violées par des soldats russes de passage, et dont un certain nombre d'entre elles se sont retrouvées enceintes. Et donc, c'est un film sur, finalement, le dialogue entre le langage qui est le langage de la médecine et aussi le langage athée, puisque c'est une fille de communiste, cette jeune médecin qui sans vouloir non plus casser du curé, on sent qu'elle est un peu tout de même en terre étrangère, et le langage de la foi, et aussi le langage des applications de la foi qui sont parfois comprises dans des sens absolument, absolument délirants, extrêmement radicaux, justement. C'est ce qui fait aussi que ce film est extrêmement actuel, parce qu'il pointe très bien la différence entre le sentiment religieux, les valeurs religieuses et la règle monastique telle qu'elle peut être mise en pratique, parfois sur des aspects complètement délirants. Et donc c'est un film que je trouve à la fois effectivement très actuel et en même temps d'une beauté, d'un espoir qui est absolument bouleversant. On a toute une série de dialogues, justement, on a parlé du langage tout à l'heure, c'est un film de dialogue autour de, justement, ces différents points de vue qui se confrontent, un film sur la tolérance, avec des actrices absolument merveilleuses, et aussi, non seulement un film sur la survie, puisque c'est comment survivre au viol, comment gérer l'après, un film aussi sur la vie, tout court, puisque il y a des choses absolument magnifiques, et en particulier des images de Caroline Champetier, qui montre tout ce qui est lié à l'accouchement, tout ce qui est lié à cette présence miraculeuse des enfants à l'intérieur du couvent, qui sont d'une beauté et d'une émotion absolument bouleversantes.
Bon. Les Innocentes d'Anne Fontaine sort demain. Tout ce que je savais en effet de ce film, c'était que c'est Caroline Champetier qui en assure la photographie. Donc c'est déjà un très bel argument aussi. Et s'y rajoute tout ce que vous venez de dire, Noémie. Est sorti la semaine dernière le film qui a remporté la Caméra d'Or à Cannes l'année passée, 2015. Donc c'est La Terre et l'Ombre, Corinne Rondeau.
Oui, ben il l'a pas volé, je peux dire. Non, je pense que c'est un des plus beaux films qu'on a sur les écrans en ce moment. Moi, je dois dire qu'il m'a absolument sidérée. C'est un film d'1h37, mais alors qui est dans une radicalité, une beauté. Alors là, pour le coup, filmer des paysages et des visages. Oh, mon Dieu, mais bien au-dessus de Sharonas Bartas, pardon.
Ah bon ?
Ah oui, c'est un premier. Alors un premier plan qui vous sèche parce que tout y est. Et rien n'est dit. Là encore, une épure dans le dialogue. Qu'est-ce que c'est ? C'est un vieil homme qui revient dans sa maison, dans laquelle son fils est agonisant, où il va retrouver son petit-fils qu'il n'a jamais vu, et sa femme qu'il a quittée. Donc on va savoir, mais avec beaucoup d'économie, pourquoi finalement ? Et l'une des... Je dirais, il y a des séquences, des séquences qui sont... mais quasiment miraculeuse d'un point de vue cinématographique, notamment un rêve, puisque ce vieil homme qui revient retrouve une photographie de cheval, et en fait ce cheval de photographie va passer dans le rêve d'un grand-père, de ce grand-père, de ce vieil homme qui revient dans sa maison familiale qu'il a quittée depuis des années, et cette séquence elle est à la fois, c'est tout et c'est rien à la fois, Et c'est surtout en fait que ce film, alors évidemment il faut avoir un peu le moral bien accroché, puisque qu'est-ce que c'est ? Cette maison est au milieu de champs de canne à sucre qu'on coupe et en fait il faut brûler la canne à sucre. Ce fils est agonisant dans une maison où on a fermé les volets pour pas faire rentrer la poussière de cendre qui est la cause en fait de la maladie, mais aussi du rétrécissement du territoire sur lequel vivent ces gens-là. Et je vous jure que la scène de fin... est une apocalypse que je n'ai jamais vue au cinéma comme ça.
Non mais bon, j'y vais en courant.
Voilà. Donc, et la vraie question du film, c'est pourquoi ne partons pas ?
Bon, je vais partir de studio pour aller tout de suite
voir
ce film. Non, La Terre et l'Ombre, vous me donnez très 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 envie, Corinne. C'est un film de César Acevedo. Caméra d'Or pas volé. Dans quelques minutes, on va s'intéresser au nouveau film de Daniel Arbid, Peur de rien. Avant cela, on va retrouver l'invité de la dispute, Sharounaz Bartas. Riche actualité que j'ai rappelée tout à l'heure. On peut la retrouver, cette actualité, sur franceculture.fr à la page de l'invité de la dispute. Sharounaz Bartas, parler de cinéma avec vous semble être une évidence, aller de soi, puisqu'on dit que vous avez commencé très jeune à tourner des courts-métrages, puis il y a eu les longs-métrages qu'on connaît davantage ici. Pour autant, ce goût du cinéma, est-ce qu'il continue pour vous à se nourrir régulièrement de nouveaux films? Ou est-ce qu'il y a une base de votre cinéphilie qui vous nourrit toujours?
Ça peut sembler triste, mais je regarde assez rarement les films. Je n'ai pas de grande culture cinématographique dans le sens où je n'ai pas de manière méthodique, je n'approche pas les films de manière méthodique. Je ne regarde pas tout le temps toutes les nouveautés qui sortent.
Pagrindinis dalykas, kuris mane verčia dirbti, tai yra tai, ką aš matau aplink save, tai yra
ce qui m'oblige vraiment à travailler et me force à travailler, c'est ce que je vois autour de moi. C'est le monde, la vie.
Ir tai yra esmė, aš nuo to pradėjau.
C'est ça l'essence, et c'est de là que j'ai commencé.
Ir ta kryptimi ir eina.
Et c'est la direction que je suis maintenant.
Mais au départ, Sharounaz Bartas, le goût du cinéma, est-ce qu'il vient quand même de la vision de films d'autres cinéastes? Est-ce que ça s'origine quand même dans le fait que vous avez été, vous, spectateur?
Oui, bien sûr, il y en a eu. Mais c'était plutôt des coïncidences. Enfin, vous savez, c'était plutôt des hasards, parce que dans l'ex-URSS, le choix de film était vraiment très restreint. On ne voyait pas du tout de films occidentaux. Par exemple, le seul film qui m'a fait une très grande impression, m'a laissé une très grande impression, pas seulement à moi, mais à beaucoup d'autres, c'était...
Bet jisai buvo įleistas
Le
į Tarybų sąjungą tik dėl to,
Le
kad
jo
filmas 8,5 buvo Maskvos konkurse, festivalio.
Le film 8,5 a eu la possibilité d'être vu en URSS seulement parce que il a reçu un prix au festival de Moscou.
Ir Tarybų sąjunga nemėgo filmų, kurie nėra paprasti, aiškus ir...
L'Union soviétique n'aimait pas les films qui étaient
gali
plus complexes,
qui kitas prasmes,
avoir des doubles sens, un sens idéologique qui pouvait cacher quelque chose.
Il laissait indų melodramas.
Il laissait passer les films indiens, les mélodrames indiens.
Anti-américétiques films.
Parfois les films américains anti-américain.
Alors c'est étonnant pour 8,5, Sharounaz Bartas, parce que même si les questions ou le questionnement du film peut résonner avec votre travail à vous, on est quand même très loin de votre cinéma.
Le premier film qui m'a fait une très grande impression, c'était plutôt un film d'un réalisateur russe, le film de Roman Balayan, Le vol dans les rêves.
Je ne sais pas même
s'il est connu encore maintenant. Quand j'ai vu ce film, j'ai été tellement étonnée. Je n'ai vraiment pas compris ce qui se passait. Pourquoi tout à coup, en sortant de la salle, le monde avait l'air différent?
J'ai compris que la magie
du cinéma... Ce qui est le plus important pour moi, c'est cette possibilité de faire venir un sentiment. de faire apparaître une sensation.
Et ces
films, même s'ils sont différents, stylistiquement parlant, ils ont cette chose en commun. Et c'est ce qui m'importe le plus, ce qui m'intéresse le plus. Quand le film ou une autre œuvre réussit à te faire ressentir quelque chose, te faire ressentir ce que tu vois.
Et
le cinéma a pour ça toutes les possibilités techniques, que ce soit le gros plan, l'acteur, le paysage, l'homme dans le paysage, sa parole, sa gestuelle, la musique.
Nėra, kaip anksčiau galvojo, buvo tokia, prieš 30 metų gal sklandė kalbos apie tai, kad yra kažkokia sintezė.
Ce n'est pas comme on disait peut-être il y a une trentaine d'années que le cinéma c'est une synthèse de plusieurs formes d'art. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que je pense en tout cas.
Kad tai yra taip, aš manau, kad jis yra visiškai atskiras.
Je pense que c'est une discipline artistique tout à fait séparée des autres. Une forme de création qui a été inventée il n'y a pas si longtemps et c'est pour ça que
nėra tvarking, ta prasme,
elle n'est pas régie encore de manière très claire. Par exemple, la littérature
systématisuojama, jeigu tai yra, jinai turi kelis tūkstančius metų.
Elle est déjà présente depuis quelques millénaires, donc elle a une histoire longue.
Bibliothèques,
on a des bibliothèques, les élèves apprennent à aimer la littérature depuis l'enfance.
Kol kas pilnai dar neišlipo iš šitų marškinių.
Il n'est pas encore complètement sorti de ce premier rôle, cette première fonction qu'il avait.
Nous poursuivons cette dispute consacrée le mardi soir au cinéma avec le nouveau film de Daniel Harbin qui alterne depuis une vingtaine d'années courts et longs métrages, fiction, documentaire, essais vidéo. Ces deux premiers longs avaient été montrés à la quinzaine des réalisateurs à Cannes dans les champs de bataille en 2004 et Un homme perdu en 2007. Beyrouth Hotel avait lui été montré à Locarno en 2011. Son nouveau film Peur de rien, dont nous parlons ce soir, a été dévoilé au Festival de Toronto. Si Daniel Harbin, natif de Beyrouth, est arrivé à l'âge de 17 ans à Paris, l'héroïne de son nouveau film, Lina, en a 18, mais vit la même situation.
Ma fille, qu'est-ce que tu fais?
Lina,
fille, m'bala.
Je l'aime.
L'administration a décidé le non-renouvellement de votre titre de séjour. Vous avez un mois pour quitter le territoire français.
Allez, vas-y.
J'ai l'impression qu'arrivé ici, on ne peut pas tomber plus bas. Et ça, c'est bien.
Le problème, c'est que vous n'êtes pas inscrite à mon cours.
Je viens du Liban.
Ah. Bon, attendez-moi dehors, on va essayer de sauver votre peau.
Non, mais elle ne connaît pas la France, alors heureusement pour elle.
Si, je connais la France, mon par cœur.
Ah bon ?
Je connais toute la région.
Allez, casse-toi, là, putain, reste pas là.
Les arbres se penchent plus fort que...
C'est quoi une aventure?
C'est plus qu'un coup, c'est moins qu'une histoire.
Tu arrêtes!
Ça rouge, va! Et alors? Alors, aux prochaines élections, c'est Le Pen qui passe à cause de tes conneries. Et il passera toujours.
Dans que les champs
le cœur de séjour en plus tard.
Tu fais encore de jouer la victime, la pauvre petite émigrée, va te faire foutre.
Je m'occupe à longueur de journée de gens qui veulent pas retourner dans leur pays. Et bon, j'estime que pour vous, c'est pas vraiment le plus dramatique.
Si c'est dramatique, si je veux pas rentrer, moi.
Je voulais pas de leur dire. Je pensais qu'on était libre en France.
Oui, je vous dirai pas.
Eh oui, c'est Muriel Moreno qu'on entendait, la chanteuse de Niagara, dont les vrais fans savent qu'elle s'appelle Muriel Laporte. Je ne peux pas vous le cacher plus longtemps. Comme en plus, il y a un journal qui s'appelle Laporte dans ce film de Daniel Harbin, je me suis évidemment senti doublement visé. Mais j'exposerai mon sentiment sur ce film dans un instant, après avoir d'abord écouté Corinne Rondeau, fan de Muriel Moreno et de Niagara.
Oui, non, mais c'est un film absolument frais, rafraîchissant, parce que je trouve qu'il n'est pas du tout stéréotypé. On est en 1993. On est dans une... Donc, il y a... Bon, voilà, il y a un petit moment maintenant.
Oui, plus de
mais
20
ans. Je trouve que le il y a aucun stéréotype sur cette jeunesse. Et je trouve qu'elle a su absolument trouver les jeunes acteurs qui donnent toute la dynamique, toute la, je dirais, la fraîcheur, la naïveté et la curiosité que les jeunes pouvaient avoir, puisqu'on avait à peu près leur âge. Moi, j'en avais 25, 93. Et puis, donc, je dois dire que je... Bon, enfin, bref, je ne peux pas le dire. Bon,
d'accord.
Non, vous avez la porte, mais bon, moi, j'ai fait un bond dans mon fauteuil, puisqu'en fait, Muriel Gagnebin existe, le rôle que joue Dominique Blanc, puisqu'en fait, moi, j'ai enseigné à Paris 3, là où ça se passe, dans j'ai commencé à enseigner en 93. Oui, puis c'est elle qui m'a mis le pied à l'étrier pour enseigner. Donc, si je parle aujourd'hui, etc., etc. Et donc, là, si vous voulez, il y a un côté ultra nostalgique, Niagara, ça, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce film? Et je trouve qu'effectivement, on a quand même perdu aujourd'hui, par rapport à un contrepoint qu'on peut voir très rapidement, c'est qu'on a perdu tout ce rapport qu'incarne cette jeune Libanaise, Lina, qui est tout le temps en train de chercher à être dans ce monde-là à travers ceux qui y sont. Et donc, il n'y a pas de jugement, il y a une sorte de circulation entre les êtres, puisqu'en fait, elle ne peut pas vivre dans sa cellule familiale, parce que bon, il se passe des choses qui ne sont pas très sympathiques de la part de son oncle. Elle quitte peur de rien, donc elle y va. Et donc, circulation parce que rencontre, parce qu'initiation, parce que trahison, parce qu'amour, parce que redépart au Liban. D'ailleurs, des scènes absolument formidables. J'ai trouvé du retour au Liban avec le frère et la mère dans la voiture. Ils sont, mon Dieu. Et donc, c'est toute la maturité de cette jeune femme qui passe très, très vite. Et alors, le plaisir du film, c'est quand même une génération qu'on a oubliée, pourtant on en est. Du rêve qu'on avait. Et je dirais, de tout le rapport à ces discussions qu'on pouvait avoir, quand même beaucoup plus politisées qu'elles ne le sont aujourd'hui, avec, je trouve, un rapport direct. Un rapport direct, franc, et j'ai trouvé ça absolument formidable. Alors, évidemment, le film vaut ce qu'il vaut, c'est-à-dire sa fraîcheur, son rapport... vraiment, c'est tenu, je trouve, d'une main de maître avec les jeunes acteurs, India Air, j'ai oublié le nom de la jeune actrice, Manal Lissa, évidemment Lacoste, qui est super, Vincent Lacoste, petit bourgeois gauchiste, enfin c'est absolument... Mais c'est juste, je trouve que le moment qu'elle décrit est juste. Et puis en plus, je pense qu'il n'a pas été simple pour elle d'avoir le financement de ce film. Et donc je suis très heureuse que ce film existe sur les écrans aujourd'hui.
Oh, je ne sais pas qui a assuré le financement de ce film. Ce sont les films Péléas qui produisent ce film. Alors, bon, voilà, il existe aujourd'hui. On va savoir ce que Noémie Luciani a en pensé dans une version synthétique.
Ah bien, j'en pense beaucoup de bien aussi. Je l'ai trouvé effectivement très frais, très juste, tout ce que disait Corinne. Alors, j'ai vu ce film au dernier Festival des Arcs, donc c'était début décembre dernier, et Manal Lissa a reçu le prix d'interprétation donc pour ce rôle dans Peur de rien. Et c'est Daniel Arbitre qui est venu sur scène pour recevoir le prix en son nom. Et je me souviendrai toujours de l'émotion extraordinaire de ce moment-là, parce que Daniel Arbitre était absolument bouleversée, elle pleurait sur scène. Et en fait, ce qu'elle disait allait bien au-delà de... La première approche qu'on a de ce film, qui est effectivement quelque chose d'une grande fraîcheur, d'une grande légèreté, dans le joli sens du terme, il y avait un sentiment d'urgence dans la voix de Daniel Arbitre. Alors, il faut remettre les choses dans le contexte, c'est-à-dire qu'on était au début du mois de décembre, donc forcément, surtout à Paris, dans un sentiment d'actualité franchement douloureuse. Et elle nous a parlé de ce désir qu'elle avait en faisant le film de montrer que la France est belle. Et avec cette insistance sur le présent, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un côté très nostalgique dans ce film, il y a un intérêt réel qui est de comparer, de justement chercher le contrepoint, comparer hier et aujourd'hui. Alors ça se fait sur des détails, alors ça se fait parfois avec beaucoup d'humour, il y a des choses qui n'ont pas changé du tout, notamment on a ce petit couple d'extrême droite, alors ils attendent le retour du roi avec donc cette jeune actrice, la India Air, qui est absolument impayable dans le film. Ça, on voit les mêmes aujourd'hui, ça n'a pas bougé d'un iota. Il y a des choses, effectivement, ce que disait Corinne, que je trouve très juste, c'est cette politisation de la jeunesse qui me semble avoir quand même considérablement décru. Et en même temps, il y a cette espèce de déclaration d'amour à Paris qui, je pense, se fait vraiment au présent et pas à un Paris de 93. Et elle se fait par les yeux de cette jeune femme qui choisit vraiment d'avoir un rapport amoureux à Paris. Et rapport amoureux, ça veut dire embrasser dans tous les sens du terme. Un nouvel amant qui va être un bourgeois bien installé, et puis un coup, ça va être le petit gauchiste tout fougueux. Et tout ça, ça n'est pas uniquement une manière de virevolter dans les sentiments, mais c'est qu'elle a un a priori qui est positif. Et ça aussi, c'est quelque chose de très frais, de voir quelqu'un qui arrive à Paris et qui décide d'embrasser Paris comme ça, sans se laisser faire par des préjugés négatifs ou par la morosité ambiante.
Alors, c'est vrai que, bon, il y a cette distribution, hein, vous le soulignez toutes les deux, mais c'est vrai que c'est très important pour la réussite de ce film. On aimerait tous suivre les cours de Dominique Blanc ou de son modèle. Alors, je ne sais pas s'ils étaient exactement comme cela, mais enfin...
Alors, voilà, moi, je n'ai jamais suivi aucun cours, mais je sais qu'à la fin des cours, c'était un applaudissement de salle de rock'n'roll. Hein. Je peux vous le dire, les gens hurlaient et applaudissaient à la fin de chaque cours. Donc, mais moi, c'est ce qu'on m'a raconté, moi, je n'y ai jamais été.
Mais c'est vrai que voilà, ça fait très très envie, et puis c'est rare de voir Dominique Blanc dans ce type de partition, et elle la tient magnifiquement bien. Mais alors, peut-être un paradoxe quand même dans ce film, pour mettre un bémol, mais je trouvais quand même au niveau cinématographique que la mise en scène était quand même un peu poussive, assez scolaire. Alors je trouvais ça étonnant de la part de Daniel Harbin, dont on a pu voir d'autres films avec des audaces formelles parfois assez grandes. Et ici, alors peut-être que d'une certaine façon, c'est comme si c'était un premier film. Enfin, il y a quelque chose peut-être de là, d'une grammaire cinématographique que j'ai trouvé, pour le coup, alors peut-être non pas fraîche, mais un peu verte. Alors j'étais un peu surpris par ce côté un peu poussif. Je vais pas dire un mot plus fort, parce que c'est juste pour introduire un peu de dispute dans cette émission. Et Antoine Guillot, cette fois, il opine à mes propos, Corinne. Un partout.
Non, mais j'ai eu ce sentiment aussi qui va très bien avec ce qui a été dit avant, parce que effectivement la justesse des personnages, cette façon de les voir vivre vraiment, c'est-à-dire j'ai pas du tout le sentiment de quelque chose de très écrit, très volontariste.
En tout cas, c'est très bien joué.
Voilà.
Ah ouais, c'est ça.
Mais c'est pour ça, et c'est énormément de travail pour obtenir ça. Et je pense que Daniel Harbin a certainement voulu aussi faire un film grand public, c'est-à-dire que si ce film marche très bien en salle, j'en serais ravi parce qu'il le mérite et qu'il se donne cette forme-là, c'est-à-dire c'est un film qui veut toucher tout le monde, qui n'est pas là pour afficher la mise en scène, que Daniel Harbin se soit concentré sur la direction des comédiens, sur la justesse des personnages, je pense qu'elle a très bien fait, et donc c'est un film qui a l'air modeste comme ça, mais qui effectivement remue des choses assez, assez profondes. Moi, j'étais très touché par ce film, en étant surpris tout au long du film que je le sois, justement à cause de la faiblesse de cette forme dont vous parlez, que finalement on oublie très vite.
Quoi. Oui, non, c'était juste pour apporter un peu de piment à la discussion. Mais d'autant que Daniel Harbin, elle avait vraiment des films formellement qui peuvent aller assez loin.
Oui,
mais c'est peut-être moi j'ai pensé aussi à ça, la volonté d'être peut-être plus grand public et donc de.
Non, mais je pense que fondamentalement convenue. Cette jeune Libanaise qui arrive est au cœur d'une société. Et donc, pour rendre compte de cette diversité de société, un bourgeois qui se servira de ce qu'il veut de cette belle jeune Libanaise, un jeune musicos qui va finir par partir à l'étranger, le jeune bourgeois gauchiste, je veux dire, cette espèce de miroir, elle ne peut donner qu'un miroir. Et si elle devait compliquer la grammaire, alors elle ne fait pas un film politique, elle ne fait pas un film populaire, elle fait un film politique. En l'occurrence, comment il y a quelque chose d'une forme de... Enfin, comment on est contraint par des lois et comment on continue à vivre malgré toutes les lois qu'on vous impose, ou les règles, à la fois familiales et à la fois, il te faut ton permis
ta carte de séjour.
Ta carte de séjour. Donc, je trouve que, justement, au lieu de s'apesantir comme l'est le cinéma français aujourd'hui, voilà, c'est le drame, la tragédie, les chômeurs, le machin, dans un discours ultra sociologique, ultra politisé avec « c'est la fin du monde », je trouve que cette fraîcheur qu'elle rétablit avec sa ligne horizontale du populaire, c'est-à-dire cette manière de voir les autres, d'être curieux des autres, et cette fille qui arrive de là, elle ne vient jamais dire « au Liban, c'est pas comme ça ». Et on ne vient jamais lui dire « fais comme chez nous ». Je veux dire, ce discours qu'on a aujourd'hui, « faites comme nous », parce que vous êtes ici, ça n'arrive pas. Les gens se rencontrent, se connaissent, s'appréhendent, s'apprivoisent. Et je trouve qu'elle a ce côté populaire, cette horizontalité que je trouve mettre tout le monde à égalité, les royalistes comme les gauchos. Et je veux dire, c'est absolument formidable parce que justement, moi, ce que j'ai trouvé agréable par rapport à le gros truc politisé français aujourd'hui, où ça parle, où ça veut être dans le conflit, pour dire regardez le monde comme il est, elle est en train de dire, bon écoutez, si vous regardiez les gens avec toute la naïveté, mais qui est aussi l'humanité, peut-être qu'on serait un peu moins en train de se déchirer en permanence sur qu'est-ce que tu as dit, et moi je serais toujours ton ennemi. Et je trouve que le point, justement, qu'elle relève à la fin du film, bon, il faut le voir, c'est le point d'inégalité qui se joue, mais et qui n'est pas lié aux individus, qui est lié à la question de la loi. Et je trouve qu'elle est, elle est simple, mais elle est juste, et elle fait un film populaire.
Non, mais je suis en fait, je suis évidemment d'accord avec vous. Hein. Je voulais quand même un peu vous titiller, mais du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais non, il y a des choses, et je ne divulgacherai rien, mais aussi ce que dit cette jeune Lina sur sa vie à Beyrouth, sur sa vie au Liban, c'est très inattendu et très. Voilà, et ça replace aussi les choses. C'est quoi la guerre du Liban? Réponse dans le film pour la jeune fille. Dernier mot, Noémie Luciani, sur Peur de rien.
Justement, ce mot, je le cherchais depuis le début. Je me demandais ce qui caractérisait le mieux ce tempérament de Lina. C'est pas exactement de la bienveillance, c'est plus que de la curiosité. Je crois que c'est de la gourmandise. En fait, elle a exactement la même attitude avec toutes les expériences qu'elle peut faire qu'un gourmand face à une nouvelle saveur, qui va se réjouir avant d'avoir goûté, avant de savoir s'il aime, se réjouir du simple fait de goûter. Et c'est ça finalement qui est extrêmement agréable et qu'on a envie de lui emprunter. Ça se voit, elle est gourmande des hommes, elle est gourmande des autres, quels qu'ils soient. Elle est gourmande des études aussi. Et ça, la gourmandise, l'attitude qu'elle a en Sorbonne, cette façon de choisir ses options, de changer d'avis, comme si elle était dans une boutique de vêtements en train de se faire plaisir et de se dire « Oh la jolie robe !» Mais ça, je trouve ça délicieux et je trouve ça important aussi parce que franchement, pour y être allé 10 ans plus tard, l'ambiance en Sorbonne, c'était pas exactement la même que celle de 93. Et je pense qu'il faudrait arriver à renouer avec cette gourmandise-là.
C'est une gourmande qui parle.
Voilà.
On a bien compris.
Vous savez tout.
Peur de rien de Daniel Arbide sort demain en salle. Alors, j'ai lu que comme Sharonas Bartas, Daniel Arbide avait exposé aussi ses photos en ce moment. Ouais. C'est à Galerie Cinéma d'Anne-Dominique Toussaint que cela se passe.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Et avant de conclure cette émission, le jeu de La Dispute, retour d'abord sur le jeu d'hier au soir, Antoine Guillot.
Oui, qui vous a fait gagner des invitations pour le spectacle L'Illusion Comique, mise en scène Vincent Tavernier au Théâtre Montansier à Versailles. Je vous avais demandé quel personnage de soldat fanfaron issu de la Comédia dell'Arte on trouve dans cette pièce de Corneille. C'est évidemment Matamor.
Que gagne-t-on ce soir?
Des invitations pour le film de l'exposition Goya, vision de chair et d'os, à partir d'aujourd'hui au cinéma, où a eu lieu l'exposition qui a inspiré ce film.
Votre réponse au début de l'émission, mais sinon vous la notez, ainsi que vos coordonnées postales, vous envoyez tout ça par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève La Dispute de ce soir. Merci à vous Corinne Rondeau, Noémie Luciani et Antoine Guillot d'y avoir pris part avec moi. Toute information sur cette émission à retrouver sur franceculture.fr à la page de La Dispute. Dispute possible grâce à Hugo Boursier, c'est un bout à tas. Daniel Finot, Antoine Guillot et Virginie Le Duo. Prise de son assurée ce soir par Claude Niort. Réalisation Daniel Finot. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée aux arts plastiques en compagnie de Harry Bellet et Jean-Max Collard. À notre affiche, Matisse et la gravure, l'autre instrument, c'est au musée Matisse du Cateau Cambrésis. Et puis Denis Savary, Jour Blanc et Sabiane Baumann, deux expositions à découvrir au Centre culturel suisse. On évoquera aussi plus rapidement Tabou, c'est à la maison particulière à Bruxelles. Et puis l'expo de Renaud Gérez à la galerie Crève-Cœur. On retrouvera une revue de presse culturelle signée Antoine Guillot, les choix de Sharonas Bartas et puis un nouveau cadeau à gagner. Tout ça c'est pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture. Dans quelques instants, le journal de la rédaction.